Bonjour, il est 5h30 en temps universel, même heure à Bamako au Mali. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Le calme a régné hier dans la capitale malienne qui portait encore les stigmates des incidents ayant ponctué le renversement du régime Ibeka, en particulier l'incendie du cabinet d'avocats de M. Tapo, ministre de la Justice du gouvernement déchu. Les habitants de Bamako ont vaqué à leurs occupations, mais les administrations et les banques étaient fermées. Les militaires ont dit vouloir une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles dans un délai raisonnable. Ils ont annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. Nous y reviendrons en détail avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré. Hier, c'était le troisième jour de la Convention démocrate ici aux États-Unis, officiellement investie par les démocrates comme colistière de Joe Biden. Kamala Harris, 55 ans, a appelé l'Amérique à tourner la page Trump. La sénatrice Kamala Harris et l'ancien président Barack Obama ont dénoncé les failles du président Donald Trump qui n'a, selon eux, jamais pris la mesure de son poste. L'absence de leadership de Donald Trump a coûté des vies, a déclaré la sénatrice de Californie qui veut devenir la première femme vice-présidente de l'histoire des États-Unis. J'ai espéré pour le bien de notre pays que Donald Trump puisse montrer l'envie de prendre son rôle au sérieux, qu'il puisse ressentir le poids de la fonction, a de son côté affirmé l'ex-président Obama. Les conséquences de cet échec sont graves, 170 000 Américains morts, des millions d'emplois perdus, nos pires instincts libérés, a-t-il ajouté, estimant que la démocratie américaine était en jeu. La réplique du président Donald Trump a immédiatement fusé. Quand j'entends cela et que je vois l'horreur qu'il nous a laissée, la stupidité des accords qu'il a conclus, a-t-il réagi, regardez comme il était mauvais, à quel point il fut un président inefficace. Hillary Clinton, l'ex-candidate malheureuse qui a échoué il y a 4 ans à devenir la première présidente des États-Unis, a pris aussi la parole hier. Elle a appelé à la mobilisation pour éviter que les lendemains de l'élection ne soient une nouvelle fois ceux de la déception et des regrets. La sénatrice Elizabeth Warren et Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, ont abondé dans le même sens. La convention démocrate organisée cette année totalement en ligne à raison du Covid-19 prendra fin ce soir avec le discours final de Joe Biden qui affrontera Donald Trump le 3 novembre. La convention nationale républicaine, également virtuelle et revue à la baisse, se tiendra, elle, la semaine prochaine, du 24 au 27 août. Monsieur Trump sera officiellement désigné candidat pour un second mandat. Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient formellement activer un mécanisme juridiquement controversé dans l'espoir d'imposer au Conseil de sécurité de l'ONU et le rétablissement de toutes les sanctions internationales contre l'Iran, ce qui pourrait anéantir définitivement l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le président Donald Trump a affirmé avoir demandé à son secrétaire d'État Mike Pompeo de notifier au Conseil de sécurité de l'ONU que les États-Unis entendaient rétablir pratiquement toutes les sanctions des Nations Unies contre l'Iran. La résolution américaine pour conduire l'embargo a connu un échec vendredi. Seuls 2 des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté pour. Les États-Unis ne demanderont pas la peine de mort pour 2 djihadistes du groupe État islamique, connu sous le nom des Beatles et détenu par l'armée américaine, a assuré mercredi le secrétaire d'État Mike Pompeo. Le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi rencontre aujourd'hui pour la première fois le président Donald Trump à la Maison-Blanche pour évoquer l'avenir des troupes américaines en Irak et le défi posé par les groupes armés souvent alliés de l'Iran. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, restez branchés sur votre fréquence magique, Le Monde.
De retour avec vous, Eric Maniakiza, pour la suite de nos informations dans cette édition du Monde aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue sur VOA Afrique. Au lendemain du coup d'État ayant renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, un colonel de l'armée Assimi Goïta s'est présenté hier comme le nouvel homme fort à Bamako. Il est apparu à la télévision nationale aux côtés d'autres militaires et préside désormais le Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Il a rencontré hier les secrétaires généraux des différents ministères et leur a demandé de gérer les affaires courantes avant la mise en place d'un gouvernement de transition. Le putsch a été condamné par l'ensemble de la communauté internationale, mais la coalition d'opposition du M5-RFP s'est félicitée du coup d'état militaire, estimant qu'il avait parachevé sa lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et se disant prête à élaborer avec la junte une transition politique. De Bamako, les détails de Kassim Traoré.
24 heures après leur prise du pouvoir, le Conseil national pour le salut du peuple ouvre ses portes à la presse. C'est ainsi que le CNSP a présenté son directoire. Le colonel Assimi Goïta, président du comité pour le salut du peuple, a été présenté aux journalistes. Il était jusqu'ici le commandant du bataillon autonome des forces armées spéciales du Mali, une unité d'élite très discrète au sein de l'armée malienne. Colonel Assimi Goïta, président du comité national pour le salut du peuple.
Comme vous le savez, suite à l'événement d'hier qui a abouti au changement du pouvoir, c'est notre devoir de pouvoir donner notre position. Comme vous le savez, le Mali se trouve dans une situation de crise sociopolitique, sécuritaire. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays le Mali d'abord. Raison pour laquelle nous avons assuré notre soutien et le dire de commencer à travailler car nous n'avons plus droit à l'erreur.
L'objectif actuel du CNSP est de remettre l'administration malienne au travail, d'où cette rencontre avec les secrétaires généraux des départements ministériels.
Il était de mon devoir de rencontrer les différents secrétaires généraux ensemble pour que nous puissions les assurer notre soutien par rapport à la continuité du service, la continuité de l'État.
Le coordinateur de la CEMAS pense que l'armée malienne a parachevé la révolution citoyenne du peuple malien, Issa Kaoudjim.
D'écouter son peuple, il a refusé d'écouter son peuple. Il a dit souhaité, donc personne ne regrette son sort. Ce que nous demandons au peuple malien, il y a un peuple malien, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vainqueur. Il s'agit de se mettre ensemble, se rassembler pour se démettre. Le Mali, donc Mali en Bégapolé, pour la démocratie, de vivre ensemble. Pour dire que le peuple est en communion avec ses forces armées de sécurité et qu'on n'acceptera jamais de nous faire publier. Comme disait l'imam Diko, le Mali est un peuple debout.
Le Comité national pour le salut du peuple appelle les fonctionnaires à la reprise du travail. Colonel-major Ismaïla Wagé, porte-parole du CNSP.
Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail jeudi 20 août 2020 et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens ainsi que des lieux de travail. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'extorsion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions.
Malgré la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, la dissolution de l'Assemblée nationale et le gouvernement, la communauté internationale autour de la CEDEAO veut que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Mali. Maître Mohamed Ali Bachili.
C'est la CEDEAO qui a dit à Tété de démissionner. Eh bien, Tété a laissé une Assemblée nationale en règle avec nous. D'où d'ailleurs la possibilité que la CEDEAO a eu de nommer M. Jean Koumba Traoré à l'époque président par intérim. Toutes nos institutions étaient en place et aucune règle n'avait été violée par rapport à notre poste. Alors, ils ont accepté que ce président-là démissionne. Mais sinon, on n'accepte pas la démission de M. Ibrahim Boubacar. Il y a deux fois, il y a deux.
Les M5-RFP, dont les militantes et militants ont bien accueilli le coup de force de mardi dernier, organise un grand rassemblement le vendredi prochain au monument de l'indépendance. Cheguel Kokala Maïga, porte-parole du M5-RFP.
Nous avons dit que pour couronner ce succès, j'ai dit, nous aurons un point de presse qui dit 20 où nous allons rendre publique une déclaration qui donnera la vision du M5-RFP par rapport à la situation actuelle. Mais cela ne suffit pas. Nous avons décidé d'organiser un grand rassemblement patriotique à la place de l'indépendance le vendredi 21 août 2020 et sur l'ensemble du territoire national pour fêter la victoire du peuple malien, pour remercier le peuple malien dans toutes ses composantes.
Hier nuit, dans la capitale malienne, on a constaté que le couvre-feu a été respecté, car à partir de 21h, les rues de la capitale malienne étaient très calmes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le colonel Goïta ne pourra toutefois pas compter sur la moindre indulgence de la communauté internationale qui a unanimement condamné le putsch. Le Conseil de sécurité de l'ONU, la France fortement engagée au Sahel, Washington, le Canada, l'Union européenne, l'Union africaine, la CDAO, l'Algérie, le Maroc ont réclamé le retour à l'ordre constitutionnel et la libération immédiate du président Keïta, du Premier ministre et des autres responsables du gouvernement arrêtés mardi par les militaires. La CDAO a également suspendu le Mali avant une réunion aujourd'hui en visioconférence. Elle a prévu de tenir une réunion extraordinaire de ses chefs d'État pour évoquer la question.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 45 migrants et réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye dans le plus meurtrier naufrage de l'année. L'annonce a été faite hier mercredi par l'OHCR et l'OIM, n'est-ce pas, Abdrahman Dia?
L'Agence de l'ONU pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations ont indiqué dans un communiqué commun que les 37 rescapés secourus par les pêcheurs ont expliqué qu'au moins 45 personnes sont mortes lorsque le moteur de leur bateau a explosé au large de Zouara. Les survivants, la plupart originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été placés en détention après avoir été débarqués en Libye, ont ajouté les deux agences onusiennes. Cette nouvelle tragédie porte à au moins 302 morts parmi ces candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe et le véritable chiffre des victimes est inconnu, mais certainement bien plus élevé selon le HCR et l'OIM. Il est urgent d'améliorer les capacités de recherche et de secours afin de pouvoir répondre aux appels de détresse, ont indiqué les agences, regrettant l'absence d'un programme européen en la matière. Elles ont réitéré leur avis selon lequel la Libye ne peut être considérée comme une destination sûre vers laquelle peuvent être reconduits des migrants.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez John Lindon pour la Lune Techo.
En Côte d'Ivoire, la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité a encaissé 27 500 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine au terme de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 91 jours. Pour le mois d'août, les intentions d'émission des titres publics exprimées par les autorités ivoiriennes se chiffrent à 130 milliards de francs CFA. Au Sénégal, après une hausse de 2,3% au mois de mai, l'activité économique interne, hors agriculture et sylviculture, s'est consolidée de 7,5% en rythme mensuel en juin. C'est ce que révèlent les données de la Direction de la prévision et des études économiques.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports sur Massa Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonsoir à tous. L'Olympique lyonnais du Ivoirien Maxwell Cornet, du Camerounais Karl Toko Ekambi, tous deux titulaires, et du Burkinabé Bertrand Traoré remplaçant, a été battu 3-0 par le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, un but du Polonais Robert Lewandowski et un doublé de l'Ivoiro-Allemand Serge Gnabry ont permis aux Bavarois de s'imposer. Dimanche, en finale, le Bayern Munich fera face au Paris Saint-Germain du Sénégalais Idrissa Gana Gueye et du Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting. Le club allemand rêve d'un second triplé Coupe Championnat Ligue des Champions dans son histoire après 2013 et Paris vise de son côté un premier sacre dans la compétition. Et puis, on va lutter pour remettre le Barça au sommet, a assuré le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, au Camp Nou lors de sa présentation hier à la presse. Le technicien néerlandais, 57 ans, est apparu masqué aux côtés du président du FC Barcelone, Joseph Maria Bartomeu, et a signé une affiche à son effigie avant de s'asseoir sur le siège qu'il occupera au camp pendant les deux prochaines saisons. Bienvenue à la maison a lancé le président Bartomeu pour débuter son discours en direction du technicien qui a porté le maillot Blaugrana comme joueur de 1989 à 1995 et qui a même rapporté la Ligue des champions au club en 1992. Il remplace Quique Setién, viré après la débâcle en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich 8-2. Demi-soulagement pour Gianni Infantino. La justice interne de la FIFA a certes décidé mercredi de classer l'affaire le visant, mais le patron du football mondial est toujours sous le coup d'une procédure pénale en Suisse. Après avoir examiné la documentation et les preuves pertinentes, la commission d'éthique a décidé de classer l'affaire en raison de l'absence évidente de preuves concernant toute violation présumée du code d'éthique, a annoncé la FIFA dans un communiqué. Depuis le 30 juillet, M. Infantino est sous le coup d'une procédure pénale, le procureur fédéral extraordinaire Stéphane Köhler estimant qu'il y a des éléments constitutifs d'un comportement répréhensible en rapport avec la rencontre entre le procureur général Michael Lauber et le président de la FIFA, rencontre non documentée et faisant surgir des soupçons de collusion. Les infractions évoquées par la justice suisse à l'encontre de M. Infantino sont, je cite, l'incitation à l'abus d'autorité, la violation du secret de fonction et l'entrave à l'action pénale.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Suivez le monde aujourd'hui, Eric Manrakiza toujours avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Gabon, la session du baccalauréat 2020 démarre aujourd'hui, un examen prévu sur fond de fraude à grande échelle. Plus de 700 candidats et 26 chefs d'établissement sont soupçonnés de falsification de bulletins de notes, une pratique dénoncée par une commission d'enquête du ministère gabonais de l'éducation. De Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
La gorge nouée est presque au bord des larmes. Vicky Suarez fait partie des 700 élèves soupçonnés par la Direction nationale des examens et concours d'avoir trafiqué le bulletin de notes pour passer le baccalauréat. Comme une dizaine d'autres de ses camarades, elle fait du sexisme au ministère de l'Éducation nationale pour se faire pardonner.
Je sais plus combien de jours nous dormons, même le sol. Nous ne faisons rien d'autre. À part ça même, nous travaillons fort. Nous avons fourni des efforts, en fait. C'est pas quand même à une semaine près que M. le ministre est venu nous faire comprendre qu'on va pas passer l'examen.
Pour sa première participation, Franck Foué vient de tomber dans le piège de la facilité.
C'est un gars au quartier qui me l'a fait. Donc,
moyennant combien ?
Ah, 30 000, 40. Donc, du coup, on a travaillé toute l'année. À une semaine du bac, il y a quand même pas sur le bac, du coup, ça fait très mal.
Un scandale de fraude scolaire à grande échelle qui choque l'opinion. Jonas Etouti n'est pas concerné par la mesure gouvernementale, mais en sa qualité de membre de la plateforme de l'Ether coopérative, il vient en soutien à ses amis du lycée.
Par exemple, ils sont prêts à ce que leur bourse soit...
Ils ne soient pas bénéficiaires
des bourses. Parce que dans un premier temps, ils sont prêts même si on ne les accepte pas à l'UOB de l'Université Mabongo, ils sont prêts même à ce qu'ils partent dans notre établissement.
Selon la coalition des syndicats du secteur de l'éducation, qu'on assistait d'en abréger, qui milite pour l'annulation des mesures, la décision du ministère de l'Éducation nationale n'a pas respecté les procédures et les textes de loi relatives aux sanctions applicables en pareille situation. Lui Patrick Mombo, délégué général de la CONACICED.
Ces sanctions sont en violation de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose d'une part. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
À l'endroit des élèves, la sanction maximale, c'est la radiation effective de la liste des candidats au baccalauréat. Et pour les chefs d'établissement, les sanctions administratives concernent la suspension de fonction avec conseil de discipline et peut-être la révocation telle que prévue par la loi sur le statut général des fonctionnaires, affirme-t-on du côté du ministère de l'Éducation nationale. Libreville, Ismaël Obionze pour VO Afrique.
En l'espace d'une semaine, le gouvernement camerounais a suspendu de concessions foncières de plus de 200 000 hectares initialement attribuées à deux industriels pour l'exploitation du bois et un projet agricole. Ces concessions ont suscité une levée de boucliers au sein des communautés concernées. Elles dénoncent une tentative d'expropriation et d'accaparement de leurs terres. Le droit foncier ravive des tensions dans plusieurs localités du pays. Au cœur de ces dissensions, l'État, les communautés et les industriels. Les précisions de Emmanuel Juntap.
À quelques mètres de son domicile, Suzanne Bamfula, une cultivatrice du village Pungo Aviation dans la région du Sud, débarrasse les feuilles mortes sur les troncs de bananiers plantés.
Vous voyez, en fait, nous mettons la banane à côté des maisons parce qu'on n'a pas là au travail.
Plus de 11 000 hectares de terres cultivables sont occupés par le palmier à huile au village Pongo Aviation, qui fait partie des 18 villages dont les terres servent à la production de l'huile de palme. L'activité a débuté en 1978 avec une société d'État, privatisée plus tard en 2000. Suzanne Bamfula.
Quand je suis arrivée en mariage ici, là, j'avais trouvé mes belles-mères qui faisaient des champs un peu partout. Mais depuis que Socapam s'est installé, Socapam nous a pris une grande partie qui n'ont rien fait au rivière.
Les villages Bondjo 1 et 2, dans la région du littoral, sont également l'épicentre d'une vive contestation des communautés au sujet de leurs terres. Ici, certaines cultures du palmier à huile datent des années 1960. Le septuagénaire chef du village de Bondjo 2, Martin Ebo, mène le combat depuis des années.
Notre village ne possède pas de terre. Moi, comme ici, là, j'ai demandé à obtenir un titre foncier qui n'arrive pas. Parce que c'est le titre foncier de la Socapam. Un village que la société a trouvé. Comment peut-il avoir un titre foncier au lieu que les propriétaires qui sont les Bonio en reçoivent? L'État a donc pris avec tous nos terrains, avec toutes nos concessions.
À Yaoundé, au siège de l'ONG, Centre pour l'environnement et le développement CED, Samuel Ngifo a suivi de près le dossier des deux concessions foncières suspendues par le gouvernement.
La véritable revendication, c'est une revendication de participation.
Samuel Ngifo, secrétaire général du CED.
À peu près 85% des terres. C'est les terres sur lesquelles sont établis tous nos villages et sur ces terres-là, personne n'a de titre foncier, mais nous revendiquons tous la propriété coutumière. Ils estiment qu'elles sont propriétaires de leurs terres et que l'État a pris des décisions d'attribution de leurs terres ou d'appropriation de leurs terres sans discussion avec elles.
La plupart des agro-industries refutent les accusations d'accaparement de terres. Michel Noloué est président du conseil d'administration de la Socapam. L'entreprise possède 6 unités industrielles sur plus de 34 000 hectares pour un bail d'une durée de 90 ans à compter de juin 2000.
On parle d'une velléité ou d'un projet que la Socapam aurait d'arracher les terres. Si donc une entreprise a à sa disposition un espace d'une superficie de 23 000 hectares pour réaliser ses projets d'investissement, pour quelle raison est-ce que cette entreprise-là s'en irait arracher les terres d'un chef de village?
Les experts ont toujours appelé à une réforme foncière au Cameroun. La dernière remonte à 1974. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Mandia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, c'est parti pour les conventions politiques marquant la dernière ligne droite de la campagne pour la présidentielle du 3 novembre aux États-Unis. Joe Biden acceptera cette semaine la nomination du Parti démocrate lors d'une convention essentiellement virtuelle à cause de la pandémie de COVID-19. La semaine prochaine, le président Trump sera à son tour officiellement investi par les républicains. Nous ferons le point sur la politique américaine à un peu plus de 2 mois de la présidentielle. Ce sera ce jeudi 20 août à 19h temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique par exemple.
Au Tchad, certains quartiers dont N'Djamena sont inondés, beaucoup de maisons se sont écroulées, plusieurs familles démunies se retrouvent sans abri. Elles sont hébergées dans des édifices publics comme des établissements scolaires ou des lieux de culte. Des jeunes profitent de l'eau de pluie pour faire du business et se remplir les poches. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, a suivi pour vous.
Les quartiers les plus touchés sont dans les communes du 7e, 8e et 9e arrondissement de N'Djamena. À peine quelques mois après le début de la saison des pluies, les principaux axes qui desservent les quartiers périphériques de la capitale sont impraticables. Les bassins de rétention mal entretenus ne peuvent plus contenir la quantité d'eau et débordent dans les quartiers, comme en témoigne à VOA Afrique quelques ménagères.
Nous exigeons la présence des autorités municipales et même la présence du président de la République ici. Que ces autorités viennent nous voir comment nous souffrons avec nos enfants. Nous sommes aussi des humains. Pendant la campagne, ces hommes politiques disent « Votez pour moi, votez pour moi. Je vais vous construire des caniveaux pour faire drainer l'eau, mais voilà la preuve. »
Le président de la République a donné beaucoup d'argent aux maires des communes pour qu'ils puissent canaliser l'eau vers le fleuve Chari, mais ils n'ont rien fait. C'est depuis 2 mois que nous sommes dans l'eau. Moi et mes voisines, nous avons perdu 6 chambres et voilà que nous sommes dans la rue avec nos enfants.
Le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres. Des jeunes du quartier s'organisent pour offrir leurs services. Laver le moto avec l'eau des pluies contre des espèces sonnantes et trébuchantes.
Nous sommes des diplômés sans emploi. Comme on n'a rien à faire, on se débrouille. Les gens qui sont soucis des jeunes, ils nous donnent les 200, les 300 et ça nous permet, n'est-ce pas, de survivre.
Ça nous arrange. Une situation qui a occasionné une visite de terrain des autorités municipales. Tout en invoquant l'incivisme des riverains qui ont fait de barrages pour empêcher l'écoulement des eaux, le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, affirme que des solutions urgentes seront engagées pour soulager les populations.
Le curage des caniveaux devait en principe se faire au mois de mars, avril. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait en raison de la pandémie.
Si les habitants des communes des 7e et 8e arrondissements ont l'appui immédiat des autorités municipales, les populations du 9e ne savent plus où donner la tête. Le géologue Dr Djimadoum Nambatingar, habitant le 9e arrondissement, explique.
C'est paradoxal parce que dès qu'on sort de notre zone, tout est sec, donc personne ne se rend compte du drame que les gens sont en train de vivre. L'eau qui arrive ne coule pas vers le canal. C'est la 3e semaine qu'on commence. Même. On se dit, mais c'est un cauchemar.
André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Niger, célébration hier de la 11e édition de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Elle a été marquée cette année par une campagne d'hommage aux héros du quotidien qui consacrent leur vie à aider les autres à travers le monde. Nous découvrons ce matin une jeune dame qui travaille dans le développement d'innovations technologiques, objectif visé, aider ses sœurs. De Niamey, notre correspondant Abdelrazak Idrissa, dresse le portrait d'une de ses héros.
Elle s'appelle Cherifatou Agounour. Âgée de 28 ans, elle travaille pour l'ONG Care Niger, où elle initie et développe des innovations numériques pour appuyer les différents projets de son ONG afin d'accélérer leur impact auprès des bénéficiaires. Un travail qu'elle trouve très gratifiant.
Quand on se dit qu'on a aidé à changer positivement les vies des personnes comme nous qui ont eu peut-être moins de chance que nous de naissance, de ne pas être venus dans un environnement peut-être aussi propice, je pense que c'est très gratifiant. Juste de voir leur sourire, de savoir qu'on a contribué à rendre leur vie meilleure, c'est moi ce qui me plaît le plus dans ce travail.
La dernière innovation que Cherifatou a mise au point se nomme MMD Labari.
C'est une plateforme de renforcement de capacité et de sensibilisation à distance en langue locale et en français. Avec la COVID-19, c'est la distanciation sociale qui est préconisée comme l'une des principales mesures préventives. L'outil numérique se positionne comme un moyen efficace et fiable et sécurisé et plus sain de pouvoir mener ces activités-là. Aujourd'hui, avec le confinement, on se rend compte que c'est quelque chose qui a accru. On rencontre plus de cas de violences basées sur le genre. Et c'est aussi un moyen, une opportunité qu'on a donnée aux femmes pour pouvoir dénoncer ces cas de violence-là.
Au contact des bénéficiaires de ces innovations, Cherifatou recueille régulièrement des témoignages qui sont révélateurs des impacts des actions du projet.
Il y a une femme qui m'a dit, elle est très contente de ce projet parce qu'au-delà des avantages, on va dire, immédiats et directs, fait que va leur apporter le projet. Elle pense que c'est un emploi même pour elle-même. C'est une préparation pour le futur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le futur, il est digital.
Donc... Héros comme Chérif Atou, la communauté humanitaire nigérienne en regorge beaucoup, tels que les 7 travailleurs de l'ONG Acted assassinés près de Niamey 10 jours seulement avant leur journée. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui. Eric Manilakiza était avec vous à la présentation. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur voaafrique.com 24h sur 24. Excellente journée à vous tous.